Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Et bienvenue, si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité, comme tous les vendredis, c'est bien sûr la libre antenne, c'est l'occasion de pouvoir revenir sur les principaux événements de l'actualité en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Vous pouvez également nous interpeller, nous sensibiliser sur des événements qui vous ont marqué, des sujets qui ne font pas forcément la une, ou tout simplement des sujets qui, à votre goût, n'ont pas été traités suffisamment sur notre antenne. C'est vous qui décidez du contenu de l'émission. 33 9 693 693 60 70 09 693 693 70 si vous nous écoutez en France. Et on commence cette libre antenne avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis mercredi. Darren Wilson, un policier américain accusé d'avoir abattu un jeune afro-américain non armé en août 2014, ne sera finalement pas poursuivi. C'est un grand jury qui a rendu sa décision mercredi donc, provoquant des émeutes dans plusieurs villes des États-Unis, dont Ferguson, ville où le crime a été commis. Moussa est à Ouagadougou. Bonjour Moussa.
Bonjour Efrigan.
Vous avez dit au standard que vous étiez choqué par cette décision du grand jury. Qu'est-ce qui aurait dû se passer selon vous?
Oui, comme je l'ai dit, je suis vraiment très choqué par la décision rendue par le grand jury qui a constitué à ne pas inculper le policier dans ce meurtre de Michael Brown. Parce que pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse invoquer donc la légitime défense dans ce cas, puisque quand on parle de légitime défense, c'est pour écarter un danger qui est imminent ou mettre hors d'état de nuit son adversaire. Je ne pensais pas que pour neutraliser le gamin de 18 ans, le policier avait besoin de tirer 6 balles. Ouais, Et là, nous pensons que l'intention de tuer était là. Du coup, pour ma part, la posture adoptée donc par le grand jury constitue bel et bien un déni de justice.
Oui. D'accord.
Et Allez-y. Oui, malheureusement, cela s'est rendu beaucoup possible parce que dans la plupart des États fédérés, donc aux États-Unis, et la législation a donné trop de pouvoir aux policiers qui leur permettent d'appuyer plus facilement sur la gâchette. Je pense qu'il faut réformer donc la législation en matière des pouvoirs qui sont reconnus donc aux policiers. Mmh. Parce que cette notion de self-défense ou de légitime défense dans de nombreux États est une notion assez large qui permet à tout d'individu donc qui se sent menacé ou qui prétend être menacé d'user de tous les moyens, même des moyens disproportionnés donc pour riposter contre son adversaire. Et c'est ce qui a été retenu. Là, je pense qu'il faut encadrer beaucoup cette notion de légitime défense, comme c'est le cas dans le système français et dans de nombreux pays africains francophones.
D'accord. Eh bien, le message est passé. Et je rappelle, pour compléter ce que vous disiez, je rappelle que selon l'avocat et activiste Cornel William Brooks, président de la puissante association de défense de la population noire aux États-Unis, un jeune noir a 21 fois plus de risques qu'un jeune blond d'être tué par un policier. Et comme vous le disiez, pour lui, il faut changer les méthodes de la police américaine. Arrêter, par exemple, le profilage racial, qui est visiblement une pratique répandue aux États-Unis, avec comme conséquence, on le sait, des centaines de jeunes tués chaque année dans ce pays. Merci beaucoup Moussa pour votre appel. Retour maintenant sur un sujet que nous avons lancé en débat cette semaine. En Côte d'Ivoire, vous le savez, le comité de contrôle du Front Populaire Ivoirien a validé la candidature de Laurent Gbagbo, actuellement en prison à La Haye, au poste de président du parti. C'est donc un face-à-face Laurent Gbagbo, Pascal Afinguessan, qui se profile lors du congrès de décembre prochain, du congrès du parti. C'est que vous êtes à Abidjan et vous pensez que cette stratégie des partisans de l'ancien président va plutôt le desservir avant son procès. Bonjour à vous.
Oui. Bonjour, le terrain. C'est que de Côte d'Ivoire.
Oui.
Je rappelle que le comité donc de contrôle de notre pays a validé la candidature du président Gbagbo, ce qui pour moi représente une illusion. À partir du moment où le président de la République, le président Gbagbo se retrouve à la Cour pénale internationale et sous le coup d'une poursuite judiciaire. D'ailleurs, le procès s'ouvre le 15 juillet prochain. À mon sens, il est tout à fait utopique de penser qu'il pourra présider à la destinée donc du Front Populaire Ivoirien.
Alors, restez en ligne, Sékou. On va accueillir Serge est à Paris et je crois qu'il a un avis totalement différent du vôtre. Pour lui, le retour de Laurent Gbagbo en politique est une condition sine qua non de la réconciliation ivoirienne. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, monsieur Kouadio.
On vous écoute.
Alors,
vous avez entendu Sékou à l'instant, là, oui.
Alors, contrairement à mon prédécesseur, moi je voudrais dire que Afin Guessan, lui aussi, est un prisonnier, une personnalité en liberté provisoire. Mmh. Donc, d'un moment à l'autre, Afin Guessan peut aussi être enfermé en prison. Mmh. Mais ce que moi je voulais dire, je suis satisfait de la candidature de Laurent Gbagbo, parce que pour moi, c'est lui qui a la parole apaisante en Côte d'Ivoire. Il a eu la parole apaisante en tant que président du SPI, parce qu'il a su s'opposer à l'ivoirité au temps de Henri Conan Bédier. Et en tant que président de la République, il a eu la parole apaisante pour faire rentrer les rebelles dans son gouvernement, pour faire de M. Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour moi, devant le défi de la réconciliation nationale, je pense qu'il est la personnalité indiquée pour dire la personne, pour dire la parole qui ramènera la cohésion en Côte d'Ivoire. Vous savez, monsieur, depuis 4 ans, M. Alassane Ouattara a la charge de la Côte d'Ivoire, donc a la responsabilité de ramener la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation entre les Ivoiriens. Mmh. Il n'y parvient pas. Il faut donc que Laurent Gbagbo, qu'on ait l'humilité de demander à Laurent Gbagbo d'agir. Et pour agir mieux, il faut qu'il soit président de son parti politique.
D'accord, Serge. Alors, on va voir ce qu'en pense Sékou, qui est toujours en ligne à Abidjan. Sékou, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de...
Parlant de paroles apaisantes, je voulais revenir pour dire à mon frère Serge que Afin Guessan aujourd'hui, au niveau du pays, incarne justement celui qui a cette parole apaisante. C'est grâce à lui que les exilés LMP sont en train de retourner au pays, parce qu'il ne s'agit pas pour le moment du président Ouattara, il s'agit de la vie du FPI. Oui. Et la vie du FPI aujourd'hui, il faut un président à sa tête qui mène les activités, qui mène une opposition constructive au pouvoir Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit, il ne faut pas s'écarter de la droite ligne.
Très bien. Ben écoutez, merci à tous les deux. Merci à vous, Sékou, de nous écouter à Abidjan. Serge, merci également de nous écouter sur la FM parisienne. Merci pour ce débat qui reviendra sans doute dans cette émission. Hein. En tout cas, merci d'avoir échangé des points de vue très opposés. Direction maintenant la Mauritanie, en ce jour de fête d'indépendance, 28 novembre, donc l'arrestation du militant luttant contre l'esclavage a provoqué l'indignation de Diallo, notre auditeur de Nouakchott. Bonjour Diallo.
Bonjour, Kouadio.
Alors, vous, cette fête de l'indépendance a un goût un peu amer. C'est un jour de tristesse pour vous.
Oui, c'est un jour de tristesse. Déjà, pourquoi ? Parce que normalement, c'est une fête censée réunir tous les Mauritaniens autour de la joie, du bonheur, mais tel n'est pas le cas. Parce que tout simplement, cette fête d'indépendance symbolisée par le 28 novembre 1960, était fêtée jusqu'en 1990. Le 28 novembre 1990, malheureusement, une tragédie s'est passée et ça a été l'exécution à la veille de la célébration du trentenaire de l'indépendance. Mmh. 28 négros mauritaniens ont été pendus à Inal et aujourd'hui, la fête de l'indépendance qui est censée réunir tous les Mauritaniens ne réunit pas tous les Mauritaniens. Tout simplement, certains vont fêter la joie, mais d'autres vont repartir dans le deuil, si je peux dire les choses ainsi. Mmh. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est cette cohésion, cette unité nationale qui ne peut pas exister s'il n'y a pas eu de justice, s'il n'y a pas eu d'équité entre tous les Mauritaniens. Et si nos autorités actuellement en place avaient la foi, la bonne foi de bien faire, ils auraient pu reconnaître ces choses-là, juger les coupables, mais malheureusement, aujourd'hui, les présumés coupables sont dans le gouvernement, sont elles-mêmes parmi ces autorités-là, et aujourd'hui, ça laisse un peuple divisé.
Alors Diallo, dites-moi en une phrase, s'il vous plaît, Diallo, écoutez-moi 30 secondes. Dites-moi en une phrase, c'est-à-dire qu'en ce jour anniversaire de l'indépendance de votre pays, quel aurait été le geste qui vous aurait apaisé avec le pouvoir en place? Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû donner comme signal? Dites-le nous en une phrase, forte comme message.
Le gouvernement aurait dû faire une minute de silence lors de la journée d'aujourd'hui, du 28 novembre, et en même temps faire une ouverture vers les militants des droits de l'homme, les activistes qui luttent contre l'esclavage, qui aujourd'hui, en cette indépendance, sont en prison. Et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter qu'il y ait une bonne foi, parce que s'il y avait une bonne foi, ceux qui militaient pour l'égalité, ceux qui militent pour l'émancipation des couches défavorisées, pour plus d'équité, plus de justice, ne seraient pas derrière les barreaux.
Très bien.
On les aurait libérés et on les aurait même félicités, je dirais, pour ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela s'inscrit dans le long terme pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale en Mauritanie, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas jusqu'ici.
Votre message, en tout cas, est passé sur l'antenne. On va quitter Nouakchott pour N'Djamena, où la pénurie de carburant provoque toujours de longues files d'attente dans les stations-service. C'est une situation que le gouvernement d'Idriss Déby a, vous le savez, tenté de contenir avec des mesures pas suffisantes selon une majorité de la population tchadienne. Et c'est votre cas. Adam, vous nous appelez de N'Djamena, justement, la capitale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le député.
Bienvenue, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Merci. La crise sociale au Tchad, non seulement elle est tendue, mais vient s'ajouter encore une autre crise qui est donc la pénurie de carburant. Alors, le Tchad qui est entré dans l'ère pétrolière, c'était 2003, donc avec des retombées indéniables, un PIB qui est donc multiplié par 4 en 11 ans, et qui n'arrive pas donc à couvrir le besoin de sa population en carburant. C'est vraiment paradoxal, inadmissible, voire même de l'irresponsabilité envers nos dirigeants, M. Désiré. Depuis presque 2 mois, nous souffrons vraiment devant les stations de service où se procure en carburant. Des longues files d'attente. Alors même le litre d'essence se vendait à 1500, voire 2000, et dans certains endroits de la ville, on vendait même jusqu'à 5000. C'est vraiment, nous assistons donc à une crise sociale et le gouvernement donc n'arrive pas à résoudre nos besoins.
Et concrètement, vous, dans votre vie, voilà, ça représente quoi cette pénurie de carburant, pénurie peut-être aussi artificielle, hein? Comment ça se passe pour vous? Comment ça se traduit dans votre quotidien?
Alors, ça c'est donc pour moi, c'est un prétexte que le gouvernement a pris pour calmer la colère de la population. Alors, ce qui est marrant, l'essence et le gasoil est donc exporté pour le développement à des pays voisins comme la République centrafricaine ou le nord du Nigeria.
Oui, alors, dans votre vie à vous, Adam, dans votre vie à vous, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que c'est quoi une journée pour vous sans carburant? Ce problème-là, il vous impacte comment? Quelles conséquences ça a sur votre vie?
Une journée sans carburant, c'est juste pour montrer notre colère envers le dirigeant qui n'arrive pas à couvrir ou bien à résoudre le problème. Parce que le Tchad est un pays pétrolier et que jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir moins d'un litre. Et c'est vraiment désolant pour nous.
D'accord.
Donc, juste pour exprimer notre colère, nous sommes descendus dans la rue pour donc se manifester et le gouvernement est incapable à résoudre nos problèmes.
Très bien. En tout cas, merci de votre appel, Adam, depuis N'Djamena. Merci de nous écouter sur place. On va mettre le cap à présent sur le Togo, où le climat entre l'opposition et le gouvernement est toujours aussi tendu. Hein. Après une semaine de manifestation, le président Faure Yassingbé a annoncé cette semaine que la constitution en vigueur serait rigoureusement respectée, réduisant les espoirs de l'opposition de limiter évidemment le nombre de mandats. Eric, vous êtes à Lomé. Et après cette déclaration du président togolais, vous avez dit au Standard que vous sentez que Faure Yassingbé n'a pas pris en compte la demande du peuple. Je rappelle qu'à Lomé, l'opposition appelle à manifester aujourd'hui en réaction aux propos du président Faure Yassingbé. Où en êtes-vous de la perception de ce climat de tension dans votre pays?
Ouais, bonjour monsieur.
Bonjour,
monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale.
Mmh.
Ok, une élection aujourd'hui au Togo, ce sera une insulte envers toute la nation togolaise. Et moi je pense que à l'heure où nous sommes, les réformes s'imposent, monsieur Faure, il y a si bien même monsieur Dien. Eh bien moi j'ai été stupéfait et indigné en écoutant monsieur Faure, parce que vouloir respecter rigoureusement le texte en vigueur. La constitution dont il parle n'est pas celle-là que les Togolais ont voté à plus de 90% en 1992. C'est plutôt celle-là que son père lui a offert sur et que le père a pu partir unilatéralement en 2002, lui seul. Ok, moi je pense que le pouvoir a amusé la galerie en juin dernier en envoyant ce projet de loi comportant la réforme à l'Assemblée nationale, que les mêmes députés du pouvoir ont rejeté en bloc. Ok, donc moi je pense que tous les accords qui ont été signés, ça doit être respecté. La CVJA a été très claire dans ses recommandations.
Oui.
Et moi, je ne suis pas sûr qu'on peut s'en passer des réformes aujourd'hui.
Mmh.
Et alors, nous sommes les réformes s'imposent. Tout le monde le sait bien. La PG en 2006 a été claire. Notamment le CPDC, rénové, les dialogues Togo Télécom 2, les 22 engagements à M. Kouadio. Il y a toute une panoplie de dialogues que le pouvoir refuse d'exécuter.
Mmh.
Et moi, j'exhorte M. Faure à faire pacifiquement les réformes avant les élections prochaines.
Très
et l'adage africain est très clair. Il dit, je cite, « Ce qui s'est conçu, le cheval se trouve dans son propre ventre. »
Alors, Eric, restez en ligne. Il y a Jules est aussi à Lomé et il est un peu plus nuancé que vous. Hein. La déclaration du président Faure cache des problèmes politiques plus profonds, dites-vous, Jules. Bonjour.
Bonjour Kajo, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
Oui, oui. Votre réaction à ce que Eric vient de proposer comme analyse de la situation et des déclarations du président?
Je pense que pour revenir vers ce qu'Eric a dit, au Togo aujourd'hui nous n'avons qu'une seule vision, les élections d'accord, mais les réformes d'abord. Les réformes d'abord, parce que aujourd'hui, comme nous avons si bien le dire, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé a hérité d'un pouvoir pour la gouvernance au Togo. Donc ça voudrait dire que s'il dit aujourd'hui que la constitution doit être rigoureusement respectée, c'est une constitution qui a été changée en 2002 par son père, et c'est une constitution qui le favorise pour rester longtemps au pouvoir. Aujourd'hui, dans aucun pays au monde, la limitation des mandats, c'est un problème crucial pour le développement et la paix dans un pays. Aujourd'hui, il ne peut pas se permettre, après tout le climat sociopolitique de notre pays, l'opposition, la société civile, qui ne veut pas écouter son peuple, il ne veut pas écouter le peuple, il ne veut pas écouter les aspirations du peuple togolais en ce qui concerne les réformes avant les élections de 2015.
Mmh. Eric, qu'est-ce que vous pensez de ce regard-là de Jules?
C'est une bonne chose parce que alors nous allons manifester pour chasser M. Faure du pouvoir parce qu'il refuse. Moi je vois qu'il essaie de refuser de faire les réformes. Donc moi je pense que nous allons manifester.
C'est-à-dire que vous répondez à l'appel de l'opposition qui, je le rappelle, hein, a appelé hier à manifester aujourd'hui dans les rues de Lomé et de d'autres villes du pays. Jules, est-ce que c'est une action, cet appel de l'opposition vous paraît être une action allant dans le bon sens, parce que vous êtes sur un point de vue un peu plus nuancé?
Je pense que c'est une action dans le bon sens parce que on dit souvent que là où la négociation échoue, c'est la force qui résout. C'est-à-dire quoi? On est allé à plusieurs accords, à Lomé, à Ouaga, on a fait beaucoup de choses avec le pouvoir en place, et puisqu'on n'arrive pas à avoir un consensus des gens qui sont carrés, qui sont bloqués, cantonnés sur leur position, je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution que d'appeler le peuple, et je pense qu'il arrivera un moment où on doit appeler à la désobéissance civile pour quand même faire replier ceux qui sont en face de nous, ceux qui nous gouvernent et qui ne veulent pas mettre de l'eau dans le vin pour l'intérêt de notre pays. Nous n'avons pas d'autre choix que de manifester, d'appeler la population à manifester contre ce régime en place et pour les faire fléchir vis-à-vis des décisions qui sont en train de prendre à l'encontre du peuple.
Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à l'ensemble des participants, des auditeurs qui nous écoutent et puis à ceux qui n'ont pas pu participer. L'antenne est ouverte à vous. Vous savez comment procéder pour participer à nos différentes émissions. Un numéro de téléphone 33 9 693 693 70 si vous êtes en France. 33 9 693 693 70 si vous nous